mes notes, évidemment, on avait un titre un peu pompeux, la place du Mexique, dans l'économie nord-américaine et au-delà. J'avais un ami qu'on a invité dans le cadre de la semaine Mexique, Nicolas Foucas, et on s'est amusé. Lui, il me dit, évidemment, comme Mexicain, très pessimiste. Et évidemment, moi, comme observateur étranger, je suis un peu comme, ça va bien au Mexique. Donc, ça va être peut-être un peu au contraste avec le si loin de Dieu et si proche des États-Unis. Cette fois-ci, on dirait que ça pourrait être un peu plus proche de Dieu, pour moi, si on peut faire l'analogie. Bon, évidemment, c'est provocateur, on s'amusera tout à l'heure. Donc, essentiellement, la réflexion part du fait que, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais la banque japonaise Nomura, en 2011, a lancé un pavé dans la mare en disant « Le Mexique va bientôt dépasser le Brésil en termes de première puissance économique en Amérique latine. » Et je suis parti de là et j'ai vérifié est-ce que ça a du fondement, ça n'a pas de fondement. Et d'une manière générale, c'est assez amusant de faire l'exercice. Donc, c'est ce que je vais faire un peu avec vous. Pourquoi on peut penser que le Mexique, ça va relativement bien, malgré toutes les mauvaises nouvelles qu'on peut voir. Là, c'est juste un peu plus simple. Donc, effectivement, un peu pour lancer le débat, j'ai volé ça sur Rocker.com, qui est une firme de supplément de courtier qui veut vendre des actions des pays émergents, évidemment. On identifie le Mexique comme un nouveau, un des Next 11, après les BRICS, qui avaient été les coqueluches. On commence à dire, attention, le Brésil, ça passe si bien, il y a un ralentissement en Inde, la Chine, à 6%, c'est plus les belles années de 10, etc., etc. Et donc, on a tendance à avoir maintenant de nouveaux pays, notamment le Mexique, comme étant une de ces nouvelles coqueluches de pays qui vont connaître des développements assez importants. Est-ce que vous voyez bien? Hein? Ouais. Moi, je vais le résumer, de toute façon, c'est pas très grave. Jusqu'à 15 minutes, on ne fera pas les statistiques. De manière générale, ce qu'on voit, c'est que la productivité du Mexique augmente au cours des périodes. Selon les indices de compétitivité que j'ai utilisés, donc le World Competitive Report, bon, on le voit très bien. Le Mexique partit simplement de la 60e place et maintenant se casse autour de 53e place. C'est quand même moins que les principales. C'est quand même moins que les principaux autres pays, mais d'une manière générale, il y a une progression de productivité qu'on va voir de plus en plus par la suite. Donc, c'est la même chose. Ce qu'on voit évidemment, c'est les projections. En 2050, comme je vous l'ai dit, le Mexique, on voit qu'il va devenir la 7e plus grande puissance économique. Il était à 11e place l'an passé. Ça date, je n'ai pas mis la date, mais ça date de l'an passé, ce petit tableau-là. Et de manière générale, ce qu'on peut voir, évidemment, c'est que le Mexique, depuis 2001, le Mexique, c'est la ligne rouge. Les autres, c'est les quatre pays du BRICS. Et ce qu'on voit, c'est que tranquillement, pas vite, le Mexique a maintenu une croissance moyenne. Ce n'est pas une croissance forte. On ne court pas vite, mais c'est tranquillement, un peu sûrement. Et tranquillement, ce qu'on voit à partir de 2011, le Mexique a commencé à prendre un peu les devants par rapport à un pays comme le Brésil, etc. Donc, c'est un pays qui, même si ce n'est pas mirobolant, il y a quand même une croissance assez soutenue, assez régulière. Évidemment, 2009, c'est la dépendance aux États-Unis qu'on voit très, très bien ici. Mais si on avait des statistiques un peu plus maintenant, ce qu'on verrait, évidemment, c'est que le Mexique, malgré cette dépendance-là, a commencé, depuis les dernières années, à un peu s'affranchir, être capable de vivre avec cette focalisation sur les États-Unis. Au point de vue, évidemment, de tous les pays du BRICS, le Mexique, celui qui, d'une manière générale, a une plus grande, en termes d'inflation, en termes de stabilité monétaire, en termes de choses comme ça, c'est celui qui a les meilleurs agrégats de tous ces pays-là. Non, ça, c'est pas vrai. Ce qu'on voit maintenant, c'est aussi niveau des pays qui reçoivent bon an mal an quand même passablement d'investissements étrangers. Mais on voit par exemple que, évidemment, les belles années d'investissement, notamment des États-Unis, là, les colonies vertes, bien évidemment, c'est un peu à la baisse. Ça, c'est un peu la concurrence qu'on avait vue par rapport à l'Asie et évidemment, pour ne pas dire la Chine. Mais bon, ça commence tranquillement à s'ajuster et comme tel. De point de vue économique, évidemment, un autre avantage, c'est que parmi ces pays-là, le Mexique se définit lui-même comme un global trader. Et c'est un pays hyper connecté. L'ambassadeur hier l'a rappelé, le Mexique, et peut-être de sa géographie fait qu'il y a les pieds au nord et au sud du continent, mais également avec des façades d'ouverture sur l'Atlantique et le Pacifique. Et c'est un des pays qui a le plus d'accords de libre-échange. Et techniquement, il y a des initiatives nouvelles avec le TPP, tout ça, on en a parlé hier, et je ne reviendrai pas là-dessus aujourd'hui, mais c'est un pays qui a ses entrées un peu partout. Bon, principale donnée macroéconomique, principale partie de partenaires, c'est les États-Unis, évidemment, le Canada prend une place plus importante. Mais c'est du côté, on va le voir, c'est du côté des importations qu'il y a eu des changements les plus marquants ces dernières années. On a, évidemment, avec le rapprochement de la Chine par rapport aux importations. On va voir des données un peu plus parlantes. Bon, ça, c'est le déficit commercial par rapport Chine-Mexique. Essentiellement, le Mexique importe 10 fois plus qu'exporte en Chine. Évidemment, avec le résultat qu'il y a une balance commerciale à la vie, évidemment, des déficits. Donc, le bilan, la Chine est beaucoup plus compétitive que le Mexique depuis une vingtaine d'années. C'est ça qui commence à changer. Donc, au niveau de l'importation, c'est évidemment, il y a une tendance croissante d'intégration du Mexique au commerce, mais c'est encore les États-Unis de loin qui est sur ça. Mais on voit les colonnes jaunes, c'est l'arrivée de la Chine. Ce qui est important, c'est qu'au début des années 2000, il n'y a presque pas d'importation chinoise entre le Mexique, et de plus en plus, il n'y a que des exportations chinoises au Mexique. Donc, il y a un effet de substitution du marché interne par des produits de basse qualité, je dirais, sur les marchés mexicains, qui sont contrebalancés par, évidemment, des exportations pour faire vite. Là. Essentiellement, le Mexique par rapport à la Chine, c'est j'ai des déficits avec la Chine, j'ai des surplus avec les États-Unis. Donc, c'est un peu cette barrière-là. Donc, il y a ici une chicane avec le Brésil et la Chine, le Brésil et le Mexique et la Chine, justement, sur ça. Donc, c'est exactement ce que je vous disais tout à l'heure, c'est M. Fulton qui avait lancé la mare. Il disait pourquoi lui, les effets de la Chine sur les deux économies latino-américaines a des effets complètement différents. Avec le Brésil, on va avoir une spécialisation dans les ressources, pour ne pas dire le soya et le fer. Et d'une manière générale, avec le Mexique, c'est une spécialisation. Parce que le Mexique, hormis l'énergie de pétrole, est relativement moins bien doté que le Brésil. Et ça oblige le Mexique à se repositionner dans le secteur de la fabrication, mais évidemment sur la fabrication de base, textile, les fameuses maquilas que j'ai longtemps étudiées. Ça, c'est de moins en moins compétitif. Et donc, le Mexique, ce qu'il a fait depuis quelques années, il s'est repositionné dans les secteurs de valeur ajoutée intermédiaire, des technologies plus élevées, sans être des technologies de haute technologie, mais évidemment, des techniques modernes de production. Donc, évidemment, il devient assez compétitif, notamment dans l'auto, l'électronique, les matériaux optiques et des choses comme ça. Bon. Autre élément qu'on voit, évidemment, c'est le facteur, c'est qu'un des effets de la montée de la Chine puis de la reprimarisation un peu du Brésil, c'était évidemment l'augmentation du réal. Donc, c'est une des monnaies qui s'est le plus appréciée, avec un effet évidemment direct et qui peut nous parler presque un mal hollandais actuellement dans le cas du Brésil. Et ce qu'on voit sur le tableau de gauche, bien évidemment, c'est qu'au début, le Mexique avait des déficits chroniques par rapport au Brésil. Et maintenant, de plus en plus, à partir de 2001, on voit des surplus mexicains sur le marché d'exportation brésilien. Et on va le voir, notamment dans l'auto. Bon. Le Brésil, en l'espace de quelques années après l'Amérique du Nord, est devenu le second marché d'exportation de véhicules automobiles mexicains. Et la pression était tellement forte avec un taux de croissance moyenne des exportations mexicaines d'automobiles au Brésil, avec près de 13% par année, c'est phénoménal, que Mme Youssef a, en guillemets, pas eu le choix de demander au Mexique qu'il restreigne volontairement ses livraisons de véhicules dans le pays, sinon il était de toute façon pour ne pas rentrer. Donc il y a eu un accord un peu bras tordu pour que le Mexique accepte de se restreindre ses exportations. Mais effectivement, on voit ici une nouvelle compétitivité, notamment sur le marché sud-américain, des produits mexicains, notamment par rapport au Brésil, dans le secteur stratégique, évidemment, de l'automobile. Bon, comme je disais tout à l'heure, évidemment, de plus en plus, on regarde les exportations mexicaines, il y a moins de textiles, il y a beaucoup plus d'autos, il y a beaucoup plus de matériel optique, il y a beaucoup plus de matériel électronique grand public. Tout le monde connaît que maintenant, une télévision nord-américaine est une télévision mexicaine. Il n'y a plus une télévision qui est fabriquée au Canada ou aux États-Unis. Ils sont tous mexicains, le secteur du téléviseur. Évidemment, on le voit, c'est les principaux d'exportation. On n'est plus tout à fait dans le textile. Évidemment, le pétrole n'est quand même pas loin. Mais d'une manière générale, il y a un repositionnement assez spectaculaire ces dernières années vers des secteurs porteurs. Et finalement, c'est là que c'est encore. Donc, il a rattrapé le Brésil parce qu'il est même capable de créer des déficits. Mais d'une manière générale, et c'est là que le point d'or, si on peut dire. Dans le tableau de gauche, on avait deux courbes. 2003, l'avantage du coût de production, donc du prix de la main-d'œuvre par rapport à la valeur ajoutée, donc essentiellement la productivité, était évidemment très favorable à la Chine. Donc, on avait, c'est de l'époque où il y avait des délocalisations du Mexique vers la Chine pour la production, notamment de produits étrangers. Et donc, mais ce qu'on voit depuis 2011-2012, si on prend vraiment tout ça avec l'inflation qui a continué à arriver en Chine, on s'aperçoit que maintenant, c'est le Mexique qui coûte moins cher à produire. Si on calcule l'ensemble des coûts, la livraison, les retards, évidemment, pour un manager, il ne faut pas oublier le décalage horaire. Hein. Vous êtes du Texas à Monterrey, il n'y a pas un gros décalage, mais de Californie à Shanghai, vous travaillez dans la nuit avec vos collègues. Ce n'est pas la même chose. Donc, je vais aller vite parce que le professeur Dubuc est plus grand que moi. Donc, un peu le même principe dans cet autre indice que j'ai mis là. On voit avec plusieurs pays et d'une manière générale, de plus en plus, la productivité des produits mexicains, non seulement s'est améliorée sur le plan de la qualité, mais aussi sur le coût de livraison à la frontière américaine. Bon, un peu, c'est encore du blabla, c'est exactement la même chose. Et peut-être pour conclure, c'est que...
T'as 5 minutes.
Ah, OK, je pensais que tu m'avais dit qu'il me reste une minute. Je vais revenir en arrière. C'est un peu ce qui est intéressant. C'est effectivement, c'est des études économétriques qui nous montrent effectivement les coûts des produits. On le voit très bien dans la ligne de gauche. Il y a maintenant pratiquement une très grande similarité entre la structure des exportations du Mexique et même de la Chine. C'est très parlant. Et de plus en plus, dans certaines gammes de produits, notamment les intermédiaires que nous avons tout à l'heure, ben le Mexique se présente comme le principal, le pays où c'est le plus attractif de ce produit. Avec pour effet, évidemment, vous savez, par exemple, que le Mexique a dépassé le Canada en termes de production automobile ces dernières années. C'est quand même quelque chose d'assez parlant. Puis on a tendance à ouvrir des usines à Puebla puis les fermer plutôt en Ontario ou au Michigan. Donc, la tendance, évidemment, est de repositionner le Mexique, évidemment, comme plateforme. Ce qui va se passer, puis là, on ne sait pas trop. Le géant d'or encore un peu, chicane pour des boutilles au Congrès, mais il s'annonce quelque chose d'assez formidable pour toute l'Amérique du Nord. C'est évidemment la révolution industrielle ou la révolution énergétique aux États-Unis. Très rapidement, les États-Unis vont devenir autosuffisants, voire exportateurs d'énergie. très rapidement, les coûts de l'énergie aux États-Unis vont tomber. Ils sont déjà tombés. D'ailleurs, nous, au Québec, on le voit très bien avec ce que nous rapportent nos exportations, par exemple, d'électricité. M. Marceau, il regarde ça tous les jours et il voit qu'il n'y aura pas beaucoup d'argent à faire là. Troisièmement, il voit aussi qu'il y a maintenant un rapatriement, une réindustrialisation de l'appareil productif américain. Donc, il y a beaucoup d'entreprises américaines maintenant, non seulement ils vont retirer de Chine, mais est-ce qu'ils vont se retirer du Mexique? Est-ce qu'ils vont se retirer du Canada? Ça, on ne le sait pas encore. On est vraiment trop tôt dans le processus. Mais la prochaine grande question, c'est si le Mexique va devenir un géant, à ce moment-là, il va falloir qu'ils battent aussi les États-Unis sur leur propre planche, avec ces nouvelles, ce renouveau au niveau de la productivité dans l'appareil productif américain. D'un autre côté, il peut avoir un effet de débordement, comme on a connu longtemps. Donc, peut-être que la machine américaine va surchauffer, va atteindre un certain plein emploi, et le Canada, comme le Mexique, vont bénéficier d'une espèce d'effet de proximité, de débordement, ce qui est un peu... la chance d'être un voisin d'un géant, plus sinon son argent. Donc, sans plus tarder, j'arrêterai peut-être là. Je dois être une reste sur une minute, je ne sais pas quoi, mais on en discutera, j'en ai peut-être ici.
Bien, alors écoutez.